Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h13 sur France Culture en direct, le débat, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré au grand salon de l'innovation et du numérique. Alors France Culture est partenaire du festival Futur.e.s, anciennement Futur en scène, Futur ES qui a eu lieu cette semaine de jeudi à samedi à la Villette à Paris. Et ce soir dans le débat, on s'intéresse à ces grands salons dédiés à l'innovation, au numérique et à la tech. Depuis une cinquantaine d'années, ils sont présents aux États-Unis avec par exemple South by Southwest ou le Consumer Electronic Show. Ces salons se développent également en France depuis une dizaine d'années avec par exemple VivaTech et Future ES à Paris, Web Today à Nantes. Il y avait également le Web, le salon créé par le blogueur Loïc Lemeur, qui a été ensuite racheté par Reed Midem et qui, je crois, n'existe plus. Également sur d'autres territoires comme l'Asie, CES Shanghai ou l'Afrique avec Africa Web Festival à Abidjan. Ces salons sont essentiellement destinés aux professionnels et s'y côtoient donc des investisseurs, des responsables de grands groupes et des start-upers. Tout au long du salon, on peut assister à de nombreuses interventions, des conférences sur les thématiques les plus variées du moment et d'autres, échanger aussi avec les start-upers pour découvrir les dernières innovations secteur par secteur. Alors, à quoi servent ces salons consacrés au numérique, à l'innovation et à la tech? On en parle avec Elliot Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, et Séverin Naudet, entrepreneur du numérique, ancien conseiller numérique à Matignon, et comme on dit, Chief Digital Officer d'Amari. Ça veut dire quoi, Chief Digital Officer? On dit CDO.
Oui, c'est ça, Chief Digital Officier.
Voilà, un officier qui s'occupe du digital.
Je suis le chef du digital.
Pour commencer, Elliot Lepers, qu'est-ce qu'on vient faire dans ces salons? Et d'abord, quels sont-ils? On peut faire une rapide cartographie de ces salons?
Oui, on peut essayer. Donc, il y a effectivement le CES à Las Vegas qui est la grande messe de tout l'électronique où on va tester tous les gadgets du futur. Le South by Southwest à Austin, aux États-Unis,
qui était à l'origine un festival de rock et qui a évolué vers le numérique ensuite.
Voilà, avec cette culture plus libertaire, plus transgressive, effectivement, qui rejoint la tech à un moment donné. Et puis en France, dans les très grands événements, on a effectivement VivaTech qui est tout nouveau, et puis Web Today à Nantes qui est un peu plus ancien, qui rassemble 4000 personnes quand même, qui est une grande appropriation, grand moment d'appropriation, de découverte des enjeux du futur. En fait, moi, globalement, il y a deux mots affreux qui résument ces événements. C'est networking et pitch, hein, ces deux mots barbares, c'est-à-dire rencontrer des gens dans ce réseau-là et puis pitcher, donc présenter son produit ou sa start-up. Ça, c'est l'idée de base de ces grands événements. Heureusement, il y a une évolution depuis les premières éditions de ces moments-là et c'est devenu un moment où on essaie de se faire se rencontrer la réflexion sur la technologie, sur l'innovation avec le grand public et on essaie de créer des convergences. Ça réussit plus ou moins bien, plutôt moins bien actuellement.
C'est vrai, Naudet, quels peuvent être les modèles économiques de ce type de salon?
C'est une très bonne question, Frédéric.
Non, mais on loue, on commence par louer son espace quand on est une start-up, quand on est une entreprise. Ceux qui organisent le salon gagnent de l'argent. Il y a aussi des tickets d'entrée. Enfin, ça peut être rentable, vous pensez, ce type?
Je pense que c'est très, très rentable. Je ne suis pas organisateur de salon, Frédéric. Je pense que c'est très, très rentable. Pour rebondir sur ce que disait Elliot et pas vraiment répondre à ta question, je trouve que déjà tout ce qui permet de rappeler que l'économie a changé est positif pour moi. Les pitchs, c'était pas mal en fait au début. Ça a aidé aussi beaucoup
à lancer une start-up.
Des gens qui se lançaient dans l'entrepreneuriat et qui savaient pas forcément présenter leur entreprise, chercher des investisseurs, trouver des clients, etc. À apprendre à le faire, c'est un bon exercice de pitcher.
Et puis des sites comme Twitter ou comme Snapchat sont apparus. South by Southwest à Austin, au Texas, et c'est là où ils ont été pour la première fois connus, par exemple.
Ouais, des événements ou des organisateurs d'événements que vous n'avez pas cités, qu'on ne rentrera peut-être pas dans cette catégorie-là, mais il y a le Hub Forum, par exemple, qu'a créé Vincent Ducret il y a quelques années, qui moi, je trouve, met en relation beaucoup de gens ensemble, qui ne se seraient pas rencontrés autrement, ne serait-ce que par l'endroit où les événements ont lieu. Par exemple, le Hub Forum s'est installé au MEDEF à un moment et a amené le numérique au MEDEF, en fait. Et ce n'était pas une mauvaise chose, parce qu'il n'était pas vraiment rentré encore au MEDEF à ce moment-là. Il y a d'autres endroits aussi où le numérique s'est installé. Moi, je reviens des Lions. Je crois que c'est le seul endroit où je vais, d'ailleurs. Les autres, j'y vais pas tellement, mais où en fait, je vais à la fois faire du business, à la fois rencontrer des gens à un moment où on est tous ensemble quelque part sur la planète, et c'est assez utile. C'est aussi utile pour remettre notre pays sur la carte, en fait. C'est en termes de soft power pour la France, en termes de rayonnement international, pour montrer que on n'est pas les oubliés de l'économie numérique. C'est plutôt utile.
Et de l'huile de perche sur la question des modèles économiques de ces salons.
Je pense que c'est aussi la problématique. Donc, il y en a qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits. C'est le cas, par exemple, de Futur en scène, Futur ES. C'est gratuit. Et donc, il y a la question des sponsors. C'est que très vite, donc, il y a les stands qui coûtent entre quelques centaines à quelques milliers d'euros pour les startups qui présentent, parce que c'est des opportunités commerciales pour elles, mais derrière c'est souvent des sponsors et donc souvent des grandes entreprises qui vont avoir des grands stands, qui vont avoir leur logo en grand, et là ça pose question, parce qu'effectivement il y a une forme d'hypocrisie, alors qui est bénéfique ou pas, et la question c'est de savoir quel est le modèle économique, quel est l'intérêt de ces grands groupes, des groupes de l'énergie, des groupes de la tech également, qui en profitent pour assurer une forme d'hégémonie intellectuelle ou culturelle pour se faire bien voir de tous ces acteurs de l'innovation. Donc ça peut être une question.
En termes d'innovation, est-ce qu'on découvre vraiment des choses dans ces salons, ou n'est-ce pas la confirmation souvent de ce qu'on connaît déjà et plein de petits qui ne sont pas forcément très innovants?
Non, pas vraiment. Je ne crois pas qu'on découvre vraiment des choses dans les salons. En revanche, c'est une émulation qui est relativement saine, parce que tout le monde est obligé de faire un effort. C'est un peu le principe...
C'est un moment de communication, donc, d'une certaine
manière.
Oui,
mais je tire un peu, ça serait un peu capillotracté ma réflexion, mais c'est comme la recherche et le développement. C'est-à-dire que on fait pas toujours de la recherche et du développement pour trouver des choses. Le fait que ces salons existent oblige, ou ont obligé en tout cas dans un passé pas si lointain, des grands groupes à montrer qu'ils innovaient ou qu'il fallait qu'ils innovent, et ça pousse tout le monde, ça tire tout le monde, ça pousse tout le monde dans la bonne direction. Donc je suis pas sûr qu'on découvre des choses. J'ai lu cet article où il y a la liste de tous ces toutes ces innovations qui n'ont jamais abouti.
Ça fait partie aussi du web. Il faut créer, mais quitte à échouer.
C'est le principe, oui. C'est le principe de la recherche.
Sur le fond, beaucoup de prises de parole, de colloques, en tout cas d'interventions, de talks. Quelle pertinence ? Est-ce que tout le monde ne dit pas un peu la même chose, Eliott de Perse ?
Si c'est mal fait, effectivement, c'est le risque, c'est l'écueil, c'est que on a une approche très superficielle d'enjeux du numérique, et on va parler des poncifs, d'intelligence artificielle, de big data, etc. Et je pense que Futur ES marque peut-être un tournant, en tout cas je l'espère. Camille Penn, qui dirige ce festival, qui dirige cet événement, a posé une lettre il y a quelques mois, au moment de la refonte de ce nom, pour exprimer les missions qu'elle voulait donner à ce festival, et du coup quel était le rôle de ces moments de rencontre dans la société, avec une ambition sur notamment la question internationale, faire venir des figures et des pensées qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir, notamment dans cette émission par exemple, mais voilà, d'avoir une forme de disruption dans les pensées autour du numérique, d'avoir des personnes qui viennent d'autres continents, d'autres cultures, et qui ont une approche du numérique très différente. Et je pense que Futur ES a bien fait cet exercice-là cette année. Et puis après, une réflexion plus politique, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de passer des outils. On a beaucoup passé de temps sur les outils, sur les objets, à être fasciné par être face à un robot qui nous parlait dans un langage un peu robotique. Et maintenant, on questionne l'aspect plus politique de ces technologies. On revient à une approche une réflexion sur les humanismes numériques. Je pense que ça, c'est véritablement l'enjeu de ces moments-là.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mythifier un peu ces grands salons en faisant de la tech une espèce d'outil ésotérique réservé à une poignée d'initiés qui savent ce qui se passe dans le secteur face au grand public qui, lui, subit les progrès technologiques, le cas échéant, c'est vrai, Nodé ?
Oui, il peut y avoir ce risque si c'est réservé uniquement à cette élite ou à des professionnels. Et c'est vrai que c'est un sujet. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est... comment faire en sorte de démocratiser ces événements et de permettre à tout le monde d'y rentrer, et finalement de réduire cette fracture qu'on voit se dessiner très clairement et très nettement entre cette génération globale et connectée et le reste de la population. Et ça, c'est un vrai problème politique majeur qui peut avoir des conséquences extrêmement importante et grave. Juste rappeler quand même que là, on est effectivement, on est entre initiés et on parle à beaucoup de gens qui connaissent bien le sujet. Enfin, tout ça est quand même très jeune.
Ou pas.
Mais
c'est oui, dans ces salons, là, c'est un peu le cas. Ouais.
Non, mais l'économie numérique, ce qui est discuté, présenté dans ces salons, on parle de quoi des dix dernières années.
Donc c'est un peu le salon du livre ou la version au Festival de Cannes du numérique.
Quoi. Bah, on n'y si est pas encore, justement.
Si on veut être positif.
On n'y est pas encore parce que c'est très jeune et qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de popularité. Il y a encore. On est tous autour de cette table, et pour beaucoup qui nous écoutent, on sait très bien qu'il y a encore quelques années, tiens, quand on avait, avec Nicolas Princen,
conseiller de Nicolas Sarkozy à l'époque,
ouais,
créé l'équivalent qui avait lieu au Jardin des Tuileries.
Forum, ouais. Voilà. Les politiques ne s'intéressaient absolument pas au numérique. Ils en sont encore parfois assez éloignés en termes de compréhension. Donc, on est encore au début.
Éliott Lepers, c'est une manière aussi un peu, c'est le titre de cette émission, le nom de cette émission, c'est une sorte de soft power aussi que d'avoir ces outils-là en France. Je le disais tout à l'heure, le web qui avait été lancé par le blogueur Loïc Lemaire et qui a été racheté par Reed Midem, comme d'ailleurs, je crois, le Salon du Livre, etc., sont organisés par Reed Midem. Finalement, ça n'a pas marché. Et là, pour le coup, on a perdu cet outil-là. Donc, ça peut être une manière de travailler à l'influence de la France.
Oui, effectivement, ça s'inscrit dans les réflexions qu'on a sur la French Tech et sur effectivement rassembler les acteurs, les entreprises qui innovent sur la scène numérique en France, les fédérer et puis permettre de mieux les valoriser à l'international. Ces événements contribuent à ça. Mais pour moi, il y a un enjeu qui est primordial et qui est peut-être laissé de côté aujourd'hui, c'est d'interroger le futur. C'est qu'on est à un moment où effectivement, avec notamment la montée des mouvements identitaires, on voit bien s'ancre sur un mouvement de nostalgie en fait, et surtout sur l'incapacité pour beaucoup de nos concitoyens à se projeter dans l'image du futur. Et je pense que c'est l'écueil de ces événements-là, en tout cas c'est leur mission selon moi, c'est de réussir à raconter un futur qui soit positif, un futur qui soit désirable et dans lequel l'ensemble de la population réussit à se projeter. Et donc de pas devenir des événements d'élite, des événements d'initiés, mais de questionner quel futur on peut construire ensemble et dans lequel chacun et chacune peut se projeter. C'est ça un enjeu très politique qui doit être porté dans ces moments effectivement où on investit, où on se rassemble et où on questionne, on prend le temps de dire qu'est-ce qu'on fait, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer.
C'est vrai, Nodé ?
Oui.
Présent.
C'est la même question ?
Oui,
non, mais c'est ce que tu réécouteras la bande, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'était du soft power et ensuite, effectivement, qu'il fallait démocratiser ces événements pour ne pas continuer dans cette direction où on prend d'énormes risques à avoir une population globale et connectée, où un millénial à Paris aujourd'hui a plus de points communs avec un autre de sa génération à Cape Town ou à Los Angeles et aucun avec un baby boomer à Paris, mais où on laisse de côté toute une population qui va voter le Brexit, qui va voter pour des populistes réactionnaires en Italie et en Espagne.
Donald
Trump aux États-Unis.
Quand on voit que le président Macron a été présent depuis 2 ans à VivaTech, lui, pour le coup, il croit que c'est sa place et certainement, d'une certaine manière, le rayonnement de la France.
Ah bah c'est le soft power, il sait très bien ce que c'est. Donc oui, il en fait un levier de rayonnement de la France. Et il est allé d'abord plusieurs fois, quand il était ministre de l'économie et des finances, représenter la France.
Notamment aux États-Unis avec quelques critiques.
Oui. Plusieurs fois et plutôt avec succès. Et ensuite, il prend le relais sur un événement majeur qui est à Paris et qui vient de définitivement de s'inscrire dans le paysage mondial de la tech et de l'économie numérique. Et c'est très bien, c'est un appel du pied pour les investisseurs, c'est le signe que la France est en forme et a compris l'avenir et où était l'économie de demain.
Pour terminer, Éliott Lepers.
Oui, en même temps, rebondir sur ce grand événement Tech for Good organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron, effectivement, qui voulait valoriser les entrepreneurs qui travaillent sur l'impact social, et bien qui avait rassemblé principalement des GAFA et des grandes entreprises internationales et américaines qui ne contribuent que très peu à l'image de Microsoft ou de Facebook au bien commun, et qui avait et bien écarté de plus petites structures qui travaillent au quotidien en France là-dessus. Donc effectivement, faire attention à sortir du spectacle, de la technologie spectacle, et à poser la question de la technologie usage, de la technologie du bien commun.
Merci infiniment, on en reste là pour ce soir. Il y a Le Perse, entrepreneur fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG, Séverin Audet, ancien conseiller numérique à Matignon, entrepreneur du numérique et chef digital officer de la société Amaris.